Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le 11e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes arrivés à peu près à la moitié de l'année liturgique, enfin de la deuxième partie de l'année liturgique, du temps après la Pentecôte. Et l'Église s'assure, par une sorte de révision générale, que nous possédions bien les fondamentaux de la religion chrétienne. Tout d'abord, elle nous explique ce que nous étions et nous montre dans la geste du Sauveur, c'est-à-dire dans l'Évangile d'aujourd'hui, d'où viennent certains rites dont nous avons bénéficié au baptême. Si celui-ci est donné à beaucoup de gens qui se damneront, il est certain que sans l'application des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut être sauvé. Et il se trouve aussi que notre Seigneur, dans l'Évangile d'aujourd'hui et dans les textes de la messe, nous donne l'exemple de la manière dont nous devons nous tourner vers Dieu pour recevoir ses grâces. Voilà ce que nous avons à voir aujourd'hui, mes très chers frères. Prions la très sainte Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Mes très chers frères, en quoi cet évangile, cette doctrine évangélique, consiste-t-elle? Comment s'est réalisée la promesse faite à notre père Abraham? C'est la question que je vous pose. La réponse est la suivante. Par l'immolation de l'agneau de Dieu. Il se trouve donc que si nous devons avoir une claire notion de en quoi consiste l'évangile, saint Paul nous la donne ici, en s'adressant aux Corinthiens, il nous la donne de telle sorte que l'on puisse dire qu'il exclut toutes les autres. Si nous sommes devenus chrétiens parce que nous sommes un peu vieille France et qu'il nous semble qu'il manquait à notre passéisme et à notre nostalgisme la petite touche, sinon spirituelle, du moins liturgique, qui lui manquait, nous nous sommes mal convertis. Si nous sommes venus au catholicisme parce que nous avons compris que c'est en quelque sorte le système immunitaire de la France, comme on peut l'entendre aujourd'hui chez certains, nous nous trompons, mais alors complètement. Complètement. La France, c'est la République. Le système immunitaire de la République, c'est tout ce qui peut l'immuniser contre la loi de Dieu. Donc, le catholicisme, quand bien même il serait décrit comme le système immunitaire du royaume de France, ce serait encore une erreur. Pourquoi? Parce que la religion qui nous est donnée, qui a pour nom la religion chrétienne ou le catholicisme, si vous voulez, n'est autre que le moyen découvert par Dieu, révélé par Dieu aux hommes, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils ne se damnent pas avec le reste de l'humanité qui mérite totalement sa damnation depuis qu'elle s'est détournée de Dieu lors de la transgression du péché originel. Si l'on vient au catholicisme pour d'autres raisons que le fait que c'est la religion qui nous applique les mérites de l'agneau de Dieu immolé qui ôte les péchés du monde, on se trompe complètement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parfois emprunter des chemins hasardeux et que la grâce ne fait pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas ça que je dis. L'essentiel, c'est d'arriver. Maintenant, une fois qu'on est arrivé, il faut en quelque sorte laver ses pieds, se dépoussiérer. Si l'on est arrivé là par hasard, en quelque sorte, pour de mauvaises raisons, c'est le moment d'abandonner ces mauvaises raisons. De peur que ces mauvaises raisons ne constituent comme un boulet, comme une sorte de grille de lecture faussée qui nous fasse pratiquer la religion chrétienne dans le seul but de notre damnation. Car il y a eu un grand mouvement de pensée, un grand mouvement philosophico-politique au début de la première partie du XXe siècle, qui a été condamné par l'Église, alors pour diverses raisons, comme ça. En tout cas la raison principale, c'était que ce mouvement, cette école de pensée, qui n'était pas la pire, il faut le dire, subordonnait l'Église, subordonnait la religion chrétienne à un but temporel qui est la meilleure organisation que l'on puisse trouver sur Terre pour la société, je veux bien, mais c'était une subordination de la religion. Quiconque subordonne la religion à quelque chose d'autre se trompe. Il la dénature et il se trompe lui-même. Ou alors il est trompé et comme deux aveugles qui se traînent l'un l'autre, ils tomberont dans une fosse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'essence, la quintessence de l'Évangile est que nous étions pécheurs et que Dieu a eu pitié de nous et que pour nous sauver de sa propre colère, il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est incarné de la Vierge Marie, qui a souffert, il est mort, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts selon les Écritures. C'est la seule raison du christianisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de bienfaits qui découlent du christianisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une politique qui découle du christianisme. Je ne dis pas qu'il y a une sorte de bienfaisance, de bienfaits pour la société. Je ne le dis au contraire, je le dis, je l'affirme hautement. Mais tout ceci, ce sont des grâces en quelque sorte surnuméraires. C'est tout le reste qui nous est donné par surcroît. Ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse Saint Paul ici de nous enseigner, c'est que nous cherchions avant toute chose et par-dessus toute chose le royaume de Dieu et sa justice, la doctrine et la pratique. Et ensuite, tout le reste nous sera donné comme par surcroît, parce que notre Père qui est au ciel sait ce dont nous avons besoin, il sait que nous avons besoin de bonnes institutions légitimes, il sait que nous avons besoin de structures temporelles saines, il le sait. Il nous les avait donnés, nous les avons rejetés en faisant la révolution, nous les avons rejetés une deuxième fois en nous imaginant que nous pouvions convertir la révolution. Et de toute façon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir pourquoi l'on est chrétien. Et c'est pour cela qu'en ce 11e dimanche après la Pentecôte, Saint Paul nous résume l'Évangile. Alors, quelqu'un qui serait un petit peu, à la fois, un peu tatillon, et un petit peu, comment dire, superficiel, pourrait dire, oui, mais ce n'est pas tout l'Évangile, ce n'est même pas le credo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, ensuite il est apparu à Saint-Pierre, donc à Céphas, puis aux 11, il est apparu ensuite à plus de 500 frères à la fois, à Saint-Jacques et à Saint-Paul. Il y a encore d'autres choses, et la résurrection de la chair, et l'Eucharistie, et le dogme de l'Immaculée Conception. Ou bien, mes très chers frères, vous trouvez que l'Écriture est mal écrite, et alors, libre à vous de la réécrire, mais alors, s'il vous plaît, vous sortez d'ici, ou alors, vous êtes un petit peu attentif, vous vous réveillez, et vous écoutez ce que l'Église a à nous enseigner aujourd'hui. Saint Paul, que nous dit-il? Il dit, je vous rappelle, mes frères, l'Évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Il y a, dans ce rappel de l'Évangile, de la quintessence de l'Évangile, un aspect légèrement comminatoire, voyez-vous. Saint Paul nous menace, il nous dit, si vous n'êtes pas orthodoxe, vous aurez cru en vain. Si vous ne mettez pas en pratique la doctrine qui découle de l'orthodoxie doctrinale, vous aurez cru en vain. Et Saint Jacques, ailleurs, nous dira que les démons sont parfaitement orthodoxes du point de vue de la doctrine, et c'est pour ça qu'ils tremblent. Cela ne leur sert strictement à rien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, toutes tendances confondues, diraient « Oui, je crois, bien entendu, je crois que le Christ est venu, qu'il est mort, il est ressuscité, etc. » Bon, je crois tout ceci, mais à quoi ça les avance? Est-ce qu'ils vivent véritablement conformément aux maximes évangéliques? Est-ce qu'ils vivent véritablement conformément à l'Évangile que Saint Paul, que l'Église nous a enseigné? Reprenons très brièvement, assez rapidement, ce que nous dit Saint Paul. Donc, le fond même de l'Évangile, c'est la doctrine de l'expiation, du sacrifice expiatoire du Christ. Vous voyez, il dit, le Christ est mort. Il aurait pu dire « Notre Seigneur Jésus »,« Notre Seigneur Jésus-Christ », etc. Ça aurait été, bien sûr, c'est le Christ, c'est le nom du Christ. Mais le Christ, qu'est-ce que c'est? C'est le Messie. Le Christ est mort. Donc, rien que quand il dit « Le Christ est mort », »,« Le Messie est mort », cela implique que nous connaissions l'Ancien Testament, cela implique que nous connaissions la révélation de la promesse faite à notre premier père Adam, mais surtout à Abraham, notre père, que cela implique la promesse faite du Messie à venir par Moïse, lorsqu'il a prédit le prophète plus grand que lui. Et cela implique aussi que nous ayons intégré que toute la loi de Moïse, et avec spécialement les sacrifices, a été promulguée par Dieu au Sinaï, afin de préparer à la réception du Messie un peuple qui aurait compris, qui aurait enfin compris, que Dieu ne pardonne aucun péché s'il n'y a pas effusion de sang. Alors évidemment, les modernistes, qui sont les plus délicats des hommes, se mettent à crier en disant « Ah voilà, ça c'est le vieil évangile du Dieu bouché, hein, comme on a entendu souvent à propos de toutes sortes de choses, c'est le Dieu vengeur qui demande, qui ne peut pas pardonner, sinon par le versement du sang de son fils. » Le problème, voyez-vous, mes très chers frères, c'est que nous ne sommes pas particulièrement cruels ou particulièrement passionnés par toutes ces questions de sang et de sacrifice, mais il se trouve que c'est notre religion. Voyez, il se trouve que c'est notre religion que nous avons reçue de l'Église, et c'est cet évangile-là qui nous sauvera dans la mesure où nous le retiendrons tel qu'il nous a été prêché. Je ne sais pas, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas, mais disons que je ne sais pas comment les modernistes arrivent à prêcher l'évangile en faisant abstraction du sacrifice vicaire de notre Seigneur. Ils y arrivent sans doute et ils arrivent à convaincre des gens, puisqu'il y a encore des gens qui se convertissent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas l'évangile tel que nos pères nous l'ont annoncé. Or, saint Paul dira lui-même ailleurs, si un ange de lumière, c'est-à-dire un bon ange, si nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, nous vous annoncions un autre évangile, nous voulons bien être anathème. Un apôtre, un pape, ne peut pas contredire l'évangile. Aucun décret de l'Église ne peut abroger des maximes qui nous viennent des apôtres, des décrets, des enseignements, des doctrines qui nous viennent des apôtres. Si nous modifions la doctrine, nous ne pouvons plus être sauvés, quoi que ce soit, grosso modo, encore à l'évangile que nous croyons. Nous n'allons pas croire au Coran, au Veda, que sais-je, nous croyons toujours à l'évangile, mais si c'est un évangile qui a été modifié, alors ce n'est plus l'évangile. Or, la substance même de l'évangile, les premiers mots du dogme fondamental que nous enseigne saint Paul aujourd'hui, c'est que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Que de choses à dire, mes très chers frères, mais nous ne pouvons pas tout dire, sinon nous pourrions parler toute notre vie et encore d'autres vies, si j'ose dire. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Nous avons dit donc que la mention du Christ, et pas simplement de notre Seigneur Jésus, mais du Christ, le Messie, et la référence aux Écritures selon les Écritures, implique, mes très chers frères, que nous connaissions, que nous sachions que le sacrifice du calvaire n'est compréhensible et n'a de sens que en tant qu'il est compris comme l'accomplissement des sacrifices de tout le système sacrificiel de l'Ancienne Loi. Rejeter l'Ancien Testament, mes très chers frères, rejeter une partie de l'Ancien Testament, ou rejeter le tout, de toute façon ça revient au même, rejeter l'Ancien Testament, le Nouveau Testament se ferme et devient incompréhensible et surtout stérile pour nous. Rien ne sert d'avoir compris certaines choses, de croire avoir compris certaines choses du Nouveau Testament si l'on rejette l'Ancien Testament. Rejeter l'Ancien Testament, et quand je dis rejeter, c'est pas simplement faire comme les martionnistes qui le rejetaient en l'arrachant du volume du codex de la Bible, hein. Rejeter l'Ancien Testament, c'est se moquer de lui, c'est trouver que ses obscurités sont absurdes, c'est dire que l'on doit s'en passer parce que de toute façon ça ne sert plus à rien, c'est même aller jusqu'à dire que le Christ a abrogé l'Ancien Testament, ce qui est une absurdité, il ne l'a pas abrogé, il l'a accompli. L'Ancien Testament, ce n'est pas un passage du Coran que regrette Mahomet et puis qu'il abroge, hein. C'est l'Ancien Testament, c'est la préparation. Or, la préparation pour le Messie doit être constamment méditée, avec bien sûr la vie du Messie et les enseignements du Nouveau Testament, mais elle doit être constamment méditée, sinon nous ne comprenons plus vraiment. Vous voyez, c'est parce qu'ils ont rejeté en quelque sorte, d'une certaine manière évidemment, l'Ancien Testament en tant que préparation du Nouveau Testament, c'est parce qu'ils ont reconnu que l'Ancien Testament était le fondement d'une religion entièrement séparée du Nouveau Testament, que les modernistes en sont venus à bannir la notion du sacrifice. Alors bien sûr, évidemment, tel ou tel moderniste vous dira c'est très important le sacrifice. Je ne dis pas tous les modernistes sont différents, c'est un peu comme les protestants, on ne peut pas dire les protestants en général disent que chaque protestant dit quelque chose de différent. Donc chaque moderniste dit quelque chose de différent. Mais enfin, d'une façon générale, ils s'accordent pour reconnaître que on a exagéré dans le passé quand on s'est imaginé que sans l'effusion de sang, nul ne pouvait être pardonné et que la chose la plus importante qu'il y a dans le Christ, c'est son sang qui coule sur la croix. Et pourtant, c'est la chose la plus importante. Et pourtant, c'est le cœur de l'Évangile. Et pourtant, c'est la quintessence de l'Évangile. La quintessence de l'Évangile, c'est que le Christ a été crucifié pour nos péchés selon les Écritures. Si nous n'avons pas la foi d'Abraham, si nous n'avons pas la religion de Moïse, mes très chers frères, si nous n'avons pas l'espérance des prophètes, eh bien, nous ne pouvons pas être chrétiens. Rejeter l'Ancien Testament d'une manière ou d'une autre, le Nouveau Testament se ferme et demeure stérile pour vous. Il est dit aussi que cet évangile est résumé par ces paroles. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Là encore une fois, ce sont les prophéties de ce qui devait arriver au Messie. Et ce sont des prophéties tellement évidentes, tellement fondamentales que même les Juifs d'aujourd'hui reconnaissent, alors ils font des distinctions indues dans le Messie qui est tout d'un coup double, ils reconnaissent que par un certain côté, pour une raison plus ou moins incompréhensible, et de la part de gens dont on se demande de qui on parle, le Messie, par un certain côté, souffrira. Il triomphera, mais il souffrira aussi. Quand on trouve des Juifs sérieux, ils vous diront, effectivement, le Messie, fils de Joseph, est celui qui va souffrir parce que le patriarche Joseph est une figure du Messie. Alors évidemment, il ne faut pas exagérer sur le fait qu'il a été vendu, trahi, livré aux étrangers, etc., aux nations. Mais enfin bon, surtout par ses frères. Mais disons que d'une certaine manière, c'est un concept incontournable, comme on dit. Donc vous voyez, tout le monde est d'accord. Nous sommes tous d'accord, nous avons tous une religion qui est fondée sur les prophéties, et les prophéties disent-elles, que le Messie sera à la fois rejeté, et que son rejet, comme pour l'histoire de Joseph, l'histoire de Saint Joseph dans l'Ancien Testament, eh bien son rejet sera le salut d'un peuple immense. Parce que si Joseph n'avait pas été méchamment et mesquinement rejeté par ses frères, jalousé et jeté dans un puits, et vendu aux Bédouins qui passaient par là, et vendu en Égypte, eh bien, il n'aurait jamais pu les sauver un certain nombre d'années plus tard et se retrouver à la tête de l'Égypte après le Pharaon et sauver son peuple, comme nous le savons. Conformément aux Écritures, selon les Écritures, notre Seigneur a été préfiguré par Isaac, le deuxième patriarche fondamental, Isaac qui a été immolé par son père et qui, au dernier moment, a été remplacé par un bélier. Ce qui est une image si claire que je vais passer. Par Joseph, le patriarche Joseph, abandonné et trahi par ses frères, qui est devenu leur sauveur. Par Samson aussi, on l'oublie souvent ce grand juge, mais par Samson arrachant à minuit les portes de Gaza et les transportant sur la montagne. Il n'est pas un père qui n'y voit ici une image de la résurrection du Christ. Par Jonas sortant du poisson, après 3 jours et 3 nuits passés au fond de la mer, et encore plein d'autres prophéties. Donc vous voyez, mes très chers frères, si nous ne connaissons pas l'Ancien Testament, si nous pensons que c'est simplement le codex de la religion mesquine des patriarches qui était tout sauf préparé à l'universalisme chrétien, nous nous privons de la grâce. Et quand on a dit ça, évidemment, le mécréant éclate de rire et le chrétien tremble. Nous nous privons de la grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons pas être sauvés. Si nous rejetons l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous sommes impurs, nous sommes des mécréants. Et quelle alliance y a-t-il entre Bélial et le Christ ? Dit notre Seigneur. Nous ne pouvons ni collaborer avec ceux qui rejettent l'Ancien Testament, ni marcher la main dans la main, ni lire leurs livres, ni faire quoi que ce soit, mes très chers frères. Ce sont des gens qui sont tout entiers sous la puissance du démon, et ils sont contagieux, que Dieu nous garde. L'accomplissement donc des prophéties est une des choses fondamentales de la quintessence, si j'ose dire, du christianisme. c'est que le Christ a accompli toutes les prophéties. Le Christ n'est pas un révolutionnaire, dois-je le dire, mes très chers frères, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui pourraient entendre ce serment. Le Christ n'est pas un révolutionnaire qui est venu universaliser la religion d'un petit peuple mesquin. Quelle horreur quand on entend des choses comme cela. Mon Dieu, pardonnez-leur. On voudrait croire qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Le Christ est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Le Christ est la descendance d'Abraham. Le Christ est celui que les prophètes, dont les patriarches ont regardé, ils ont attendu le jour. Le Christ est celui dont Abraham, notre père, a vu le jour et il s'est réjoui par avance. Avant qu'Abraham fût, le Christ est. Il est le Fils éternel de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, il est descendu des cieux, il a vécu, il a souffert, il est mort, etc. Il est ressuscité. Voilà l'Évangile. Le Christ est l'accomplissement des prophéties, des promesses de Dieu. Rejetez l'Ancien Testament, vous détruisez le Nouveau. Le Christ ne s'est pas dissocié de la religion de l'Ancien Testament. Le Christ était l'attente de la religion de l'Ancien Testament. Il y a même des gens qui disent que le Christ était un Gaulois, né dans la Galilée, etc. On se demande même pourquoi l'Ancien Testament existe, puisque le Christ est une sorte de Celte perdu quelque part en Orient. Vraiment, quand on entend des choses comme cela, et Dieu sait si malheureusement elle ne date pas d'hier, enfin elle date d'avant-hier, mais et puis plein de gens le croient, qui se disent catholiques, quand on entend des choses comme cela, on aura envie de véritablement mener une vie de pénitence jusqu'à la fin de ses jours de la façon la plus stricte pour expier un tout petit peu les blasphèmes insignes qui sont ainsi proférés contre la vérité. Que Dieu nous garde, même de tolérer que des choses entrent ainsi dans nos oreilles. Car ce qui doit entrer dans nos oreilles, nous le verrons dans un instant, ce sont les doigts du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Saint-Pierre, puis aux 11, ensuite à 500 frères, ensuite à Saint-Jacques, et ensuite à Saint-Paul. On pourrait penser, si on lisait trop vite, que ça ne fait pas vraiment partie de l'Évangile, puisque ce sont des faits historiques. Oui, mais justement, regardez un petit peu, les pères, quand ils commandent ce passage, nous disent, regardez bien la procession. Il se trouve qu'il est apparu en premier à Céphas, à Saint-Paul, comme à son vicaire, comme au premier pape, au prince des apôtres. Ensuite, il est apparu à tout le collège des apôtres qui était là, sauf Judas. Il est apparu à 500 frères aussi, puisqu'il est monté aux cieux sur la montagne des Oliviers, sur le mont des Oliviers, au sud d'un grand nombre de chrétiens, de disciples. Il est apparu à Saint-Jacques, qui est le premier et fondamental patriarche de l'Église, puisque Saint-Jacques est le premier évêque de la plus belle, la plus grande, la plus fondamentale, la plus indépassable Église qui a existé, et qui est l'Église de Jérusalem. Je vous renvoie à ce que dit l'abbé Fleury sur l'Église de Jérusalem, qui a toujours été, dès le début, le modèle de toutes les églises, et même si elle a cessé d'exister avec la ruine du Temple, et même un petit peu avant, eh bien, il se trouve que, à cause du fait que les chrétiens avaient fui Jérusalem, conformément aux prophéties de notre Seigneur, eh bien, c'est l'Église qui a été pour toujours et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas chez les vrais chrétiens, le modèle fondamental. C'était une Église si sainte, si pure, que même s'il y avait les distinctions entre clercs et laïcs, entre religieux et non religieux, tous vivaient dans la communion, dans la communauté de bien, et vivaient d'une façon si parfaite que ceux qui faisaient du mauvais esprit étaient foudroyés par le Saint-Esprit, comme dans l'histoire d'Ananie et Saphir que vous connaissez. Il est apparu à Saint-Jacques. Et ensuite, il est apparu à Saint-Paul. Saint-Paul, qui est le premier des apôtres, c'est le premier apôtre des gentils. Saint-Pierre est le premier apôtre des juifs, et Saint-Paul est l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens. Saint-Paul a été donné, lui qui connaissait si bien l'Ancien Testament, évidemment, puisqu'il avait été à l'école de Saint-Gamaliel, mais lui qui avait été un persécuteur de l'Église, comme vous le savez, il a été terrassé par le Christ sur le chemin de Damas et il est devenu le prédicateur du Christ auprès des gentils, c'est-à-dire de tous ces peuples qui gisaient depuis la chute ou depuis le, depuis le déluge, disons, dans les ténèbres de l'ombre de la mort, qui était sans alliance, sans promesse, sans prophétie, sans rien. Bien sûr, il y avait quelques rémanences, quelques bribes de vérité qu'ils avaient empruntées au patriarche, mais tout ceci était engoncé dans un tel bourbier d'erreurs que cela ne servait strictement à rien. Saint Paul est allé prêcher l'évangile aux nations, de telle sorte que les nations, enseignées par lui, enseignées par cet évangile que lui-même avait reçu, c'est ce qu'il dit, cet évangile que je vous ai transmis, ce que j'ai moi-même reçu, eh bien, ces nations ont été revêtues par le baptême de la dignité israélitique, et elles sont devenues membres, elles qui étaient indignes, de l'Israël de Dieu. Voilà, mes très chers frères, ce que l'on peut dire de l'Évangile lorsqu'il doit être résumé en quelques mots. L'Évangile contient la révélation du moyen unique du salut, qui est l'Église, et de son efficace, la mort et la résurrection du Verbe divin. Justement, le Verbe divin dans l'Évangile d'aujourd'hui fait un miracle qu'il vaut la peine de scruter quelque peu. On lui amena un homme sourd et muet, et on le suppliait de lui imposer les mains. Alors Jésus, le tirant à l'écart de la foule, mit ses doigts dans ses oreilles, et les oreilles de cet homme, et prenant de la salive, lui toucha la langue, puis, levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, et sa langue se délia, et il parlait distinctement. Il ne s'agit pas de la guérison du miracle de la guérison du démoniaque qui était sourd et muet. C'est un homme qui est un malheureux sourd et muet selon la nature et qui est amené au Christ par des gens qui le suppliaient de lui imposer les mains. Passons directement au sens spirituel. Un auteur nous dit ceci : la nature humaine était incapable d'entendre la doctrine du salut et de confesser sa misère quand le Fils de Dieu est venu la chercher, et tout pécheur laissé à lui-même à cette double impuissance à quelques degrés. Nous sommes tous sourds et muets depuis la chute. Chaque être humain qui naît en ce monde est un sourd et muet. Et lorsqu'il se développe un petit peu, lorsqu'on le laisse se développer, et puis la raison qui se développe chez lui, cette surdité, ce mutisme spirituel se manifeste par une impuissance à entendre la doctrine du salut et à confesser sa misère. Regardez comme chacun, même dans le comble de la misère, arrive à se trouver des gens qui sont pires que lui. Que chacun arrive à dire que, d'une certaine manière, ou bien la misère dans laquelle il la veut bien, et il ne veut pas qu'on l'en sorte, ou alors d'autres, reconnaissant que quand même leur situation n'est pas bonne, ils font des efforts pour s'en sortir, mais ils font des efforts selon la chair qui ne servent à rien d'autre, comme disent les pères, qu'à changer un vice par un autre vice, remplacer un vice par un autre vice. On le suppliait, c'est l'intercession de l'Église. C'est l'imploration de l'Église, nous disent les commentateurs, qui plaide auprès de Dieu pour le salut de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Sauvez, Seigneur, ceux que vous voulez sauver. Dans le Dies Irae, il est dit vous qui sauvez gratuitement ceux qui doivent être sauvés. Qui salvandos salvas gratis. Et ailleurs, il est dit, dans une hymne de pour le carême, il dit ce que vous avez racheté, vous-même, Seigneur, préservez-les. Et notre Seigneur répond. Car notre Seigneur a fait un précepte à l'Église de le prier pour ceux qui doivent être sauvés, car notre Seigneur veut sauver. C'est pour cela qu'il est écrit « Alors Jésus, le tirant à l'écart de la foule ». Les auteurs nous disent que cette mise à l'écart de ce bonhomme qui était sourd et muet, à l'écart de la presse, comme on dit, à l'écart de la foule, parce que notre Seigneur avait à faire certains signes sur lui, est une image de la vocation, de l'élection à la vie éternelle. C'est un entre mille. il le tire de la foule. Les auteurs nous disent que c'est une image de celui qui est sauvé. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Certes, leur nombre est innombrable, puisque Saint Jean l'a vu dans l'Apocalypse, et c'était une des myriades de myriades de toute langue, de toute nation, de tout peuple, etc. Bien sûr. Mais il se trouve malheureusement que le nombre de ceux qui ne sont pas sauvés est encore plus grand. Notre Seigneur tira donc à l'écart de la foule ce malheureux, sourd et muet, pour lequel l'Église l'avait imploré. Regardez aussi, mes très chers frères, les autres auteurs nous disent qu'il s'agit des profondeurs de la conversion. La conversion d'un homme, ce n'est pas un spectacle qui a lieu en direct, comme on dit. Ce n'est pas un spectacle... Alors, vous allez dire comment ça pourrait se faire. Bon, je vous laisse deviner. La conversion d'un homme, ce n'est pas non plus, et malheureusement ça on le voit assez fréquemment aujourd'hui, ce n'est pas non plus le cheminement public d'un youtubeur, ou de, que sais-je, qui change de religion en direct. Alors il est apôtre d'une religion, il change de religion, il devient apôtre d'une autre religion, puis il explique qu'il s'était trompé, donc tant pis pour ceux qui avaient acheté ses mugs avec Riker, la religion d'avant, parce que maintenant il faut acheter d'autres, hein, et puis qui s'était fait baptiser. Ou alors d'autres carrément qui cheminent, qui disent « voilà, je suis en cheminement, je chemine », et alors qu'ils font des déclarations, et ensuite qu'ils se rétractent, et puis alors certains disent « voilà, c'est très bien ce que cette personne a dit », et puis après finalement on s'aperçoit que cette personne a dit, finalement elle ne le pense plus, et donc du coup les autres pensent encore que la personne pense. Quel méli-mélo indigne, indigne de l'Évangile, mon Dieu, que ça soit pour des questions culinaires, des questions de voiture, des questions de politique même, que sais-je, que le monde, que les morts enterrent leurs morts, on s'en moque éperdument. Mais pour la religion, ce n'est pas un spectacle, mes très chers frères. On ne se convertit pas en direct. Il y a des gens qui combattent pour la foi, ensuite ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, alors ils font brusquement volte-face, puis ils pondent des pensums pour montrer qu'ils se sont trompés, qu'en réalité, voilà. Mon Dieu! Que nous sommes loin de la conversion telle que les pères la codifient. Je me suis trompé, je me rétracte et je fais silence, je disparais, je fais pénitence. Et si je ne rentre pas en religion parce que ce n'est peut-être pas mon destin ni ma vocation, je me tais et j'arrête de parler. Mais c'est une logorée aujourd'hui qui est totalement indigne de l'Évangile. On dit tout et n'importe quoi, on se convertit en direct, on se déconvertit en direct, on apostasie en direct, mais gardez vos turpitudes pour vous. Notre Seigneur tire à l'écart de la foule cet homme sourd et muet, car il est honteux, spirituellement parlant, d'être sourd et muet. Nous sommes faits à l'image de Dieu. L'homme n'a qu'une seule fin qui est surnaturelle et qui est de connaître Dieu et de jouir de lui face à face pour l'éternité. Tout ce que l'homme fait et qui est inférieur à cette fin est honteux pour lui. Il est honteux d'être sourd et muet spirituellement. Notre Seigneur nous prend à l'écart, nous tire à l'écart pour nous guérir. Que fait-il ? Puis levant, alors Jésus, le tirant à l'écart de la foule, mit ses doigts dans ses oreilles, les oreilles de cet homme, et prenant de la salive, il lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parlait distinctement. Nous avons dit que les pères, et spécialement Saint Grégoire le Grand, dit que les doigts de notre Seigneur, le doigt de notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Puisqu'il dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, et il est chassé par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il se trouve que les doigts de notre Seigneur qui rentrent dans les oreilles obstruées par l'erreur, l'hérésie, la mécréance, ou tout simplement le moi, ce qui est absolument la quintessence de tout ça, c'est le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur, dans les oreilles de notre cœur, et qui, venant par la parole de l'Église, nous donne la foi. Et notre Seigneur touche sa langue avec sa propre salive et dit « Ephphatha » en araméen, c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et c'est exactement le rituel du baptême. À un certain moment dans le rituel du baptême, Le prêtre prend de sa salive, touche la bouche et les oreilles et dit « Effeta, quod est ad aperire ». Tout le monde le sait, tous les prêtres le savent très bien. Parce que c'est un rituel dans le baptême qui est assez frappant. Le prêtre agit véritablement une persona Christi là aussi d'une certaine manière. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous sommes sourds et muets, et notre Seigneur, par le don du Saint-Esprit, et l'ordre qui sort de sa bouche, nous dit « Ouvre-toi ». Et alors, nos oreilles s'ouvrent, et notre langue se délie. Elle se délie pour parler, pour dire n'importe quoi, pour dire « Je viens d'être baptisé, je vais faire une vidéo, je vais partager avec vous, mes très chers frères, soyons sérieux. » Elle se délie, notre langue, pour écouter... Pour parler les merveilles, pour dire les merveilles de Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Et pas forcément derrière une caméra. Faut-il le dire? Enfin, quelle époque? Et nos oreilles s'ouvrent, c'est-à-dire, nous dit un autre auteur, elles se ferment au monde. Elles qui étaient fermées à Dieu, c'est-à-dire sourdes et ouvertes au monde, elles se ferment au monde et elles s'ouvrent pour Dieu. Désormais, le chrétien n'entend plus, il écoute, il entend toutes sortes de choses, mais il n'écoute plus que les choses de Dieu. Il écoute l'enseignement de l'Église, il écoute les hymnes que l'Église fait monter vers Dieu, il écoute les paroles des saints, il écoute les paroles des frères, il écoute tout ce qui est pur, bon et sage, et il ferme ses oreilles aux maximes du monde. Notre Seigneur, nous dit un auteur, lui qui a créé toute chose par un ordre, fiat, et le monde a été créé, recrée aussi une nouvelle création par un ordre. Ouvre-toi. Et cette recréation est plus glorieuse que la première création. Voilà pourquoi il est dit dans l'offertoire, « Je publierai vos louanges, vos grandeurs, Seigneur, parce que vous m'avez relevé, vous n'avez pas réjoui mes ennemis à mon sujet. Seigneur, j'ai crié vers vous et vous m'avez guéri. » Voilà l'attitude de celui qui est guéri, de celui qui a été tiré à part de la foule, de celui qui est rentré dans les voies de la pénitence, dans celui qui se tait, qui met un terme à la logorée qui était la sienne auparavant, et qui commence à distiller, goutte à goutte, par sa bouche, les paroles de la vérité, quand c'est à lui de le faire. Oui, un père de famille qui se convertit doit immédiatement commencer à enseigner ses enfants, sa femme, tous ceux qui dépendent de lui, et ainsi de suite, un prêtre, bien sûr. Je publierai vos grandeurs, Seigneur, parce que vous m'avez guéri. Vous m'avez guéri. La guérison opérée par le baptême, qui n'est pas une petite guérison, puisqu'elle s'appelle une renaissance, une résurrection, produit la reconnaissance. Il faut avoir une idée exacte de l'impuissance radicale et de la hideur de l'homme sans Dieu. Si nous n'avons pas une vision correcte des effets de la chute, si nous nous obstinons à dire que la chute a dépouillé l'homme de certaines petites casquettes surnaturelles qu'il avait, mais l'a laissé quand même avec toutes ses vertus, enfin, ses vertus naturelles, ses raisons, etc., nous ne comprenons rien. La chute a fait de l'homme une loque. La chute a fait de l'homme une ordure. La chute a fait de l'homme, si j'ose dire, et vous me comprendrez, un animal. Elle a fait de l'homme, qui était un homme innocent, un homme animal. C'est l'homme animal dont parle saint Paul, qui s'oppose à l'homme spirituel. La chute a fait de l'homme une image brisée de Dieu. Alors, la puissance de Dieu peut la restaurer, bien entendu, et une statue cassée n'est jamais que des morceaux de statue, ce n'est pas devenu autre chose. Mais l'homme déchu est un sourd et un muet. Il n'entend rien de Dieu, et il ne peut rien dire qui plaise à Dieu. Il ne fait que des bruits incompréhensibles à Dieu, c'est-à-dire des bruits qui ne sont pas des paroles, qui sont mues par la reconnaissance, qui sont les paroles mues par la grâce. Notre Seigneur, l'ayant tiré à l'écart, levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et dit « Effeta ». Un auteur nous dit « C'est par la prière et le gémissement secret du cœur » que Jésus-Christ applique ses mérites. Saint Grégoire le Grand nous dit que, en gémissant et en regardant au ciel, notre Seigneur nous apprend à soupirer vers celui qui préside dans le ciel. Ce n'est pas un soupir de lassitude de notre Seigneur, comme s'il disait tous ces gens, bon, là ce n'est pas le cas. Mais c'est un soupir d'abandon à Dieu. C'est un soupir de notre Seigneur qui, voit, nous dit un auteur, les effets de la chute. Il voit un sourd et un muet, et c'est une chose bien triste que d'être selon la nature sourd et muet, parce que c'est quand même un grand handicap, comme on dit aujourd'hui. Et notre Seigneur, voyant rien qu'en voyant cela, pousse un soupir, le soupir du roi qui voit son blason dans la boue, du Créateur qui voit la merveilleuse créature, le centre et le souverain du monde, l'homme, réduit à être une sorte de demi-portion. Cela fait de la peine à Dieu de voir l'état dans lequel la chute nous a précipités. Alors ayons de la peine avec Dieu, mes très chers frères. Soupirons aussi dans l'état dans lequel nous sommes. Alors vous allez dire, je suis baptisé, je ne suis pas comme le reste des hommes. Certes, vous n'êtes pas comme le reste des hommes, mais malheureusement, vous partagez avec eux la concupiscence, c'est-à-dire cette sorte de chose qui reste avec la chute. Si la culpe de la chute, de la faute originelle nous a été ôtée, il reste quand même la blessure. La blessure, c'est une blessure qui, malheureusement, ne nous caractérise que trop, nous, les hommes, après la chute, les hommes déchus. Nous devons donc, mes très chers frères, prier à Dieu et crier à lui en tant, nous dit un auteur, homme de désir, homme de prière, homme de gémissement. Vous allez dire, je vois là un peu ridicule si je lève les yeux au ciel constamment et que je soupire. Il faut savoir ce qu'on veut, mes très chers frères. Il faut savoir ce que l'on veut. Vous voulez avoir l'air chrétien ou vous voulez ne pas avoir l'air ridicule? Alors vous allez dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant que je me traîne en gémissant, en soupirant? Faites-le déjà quand vous êtes dans votre chambre avec la porte fermée, comme dit notre Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut que le chrétien doit se donner en spectacle. Je pense que vous avez quand même compris. Mais il nous faut gémir. Voyez le néo-catholique qui dit finalement la chute ce n'était pas grand-chose et il faut juste un petit coup de pouce de la grâce pour que l'homme recouvre toute sa gloire qu'il a très peu perdue. Ce n'est pas quelqu'un qui soupire, qui gémit, qui lève les yeux vers le ciel. C'est une sorte de crypto-pélagien. L'augustinien, c'est-à-dire l'orthodoxe, celui qui est catholique, que dit-il? Que fait-il? Il soupire lorsqu'il se voit. Lorsqu'il se voit dans la glace, voilà, il se coiffe un petit peu. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose revêtu de ce misérable vêtement de peau, quelque chose de déchu. Est-ce qu'il voit son âme? Non, il voit le corps. Il voit quelque chose qui doit lui inspirer des gémissements. Non pas parce qu'il voudrait que ça soit plus beau, plus intelligent, plus grand, plus petit, que sais-je. Il voit quelque chose qui est infiniment éloigné de l'état d'innocence. Et, disons-le, en tout cas je le dis pour moi, quelque chose qui est infiniment éloigné de l'état de sainteté que Dieu attend de nous. Nous devons être des hommes de désir, comme Daniel dans l'Ancien Testament. Nous devons prier, nous devons soupirer, nous devons lever les yeux vers le ciel. Le publicain, voyez-vous, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Quand nous sommes dans un état de très grande pénitence, nous n'osons pas lever les yeux vers le ciel, mais habituellement nous levons les yeux vers le ciel, vers notre Père Céleste. Ce soupir vers Dieu est exprimé par... dans le graduel, la deuxième partie du graduel, quand il est dit « C'est vers vous, Seigneur, que je crie, mon Dieu, ne me laissez pas sans réponse, ne vous éloignez pas de moi. » C'est ça, soupirer vers le ciel, lever les yeux vers le ciel. C'est dire à Dieu « Ne m'abandonnez pas. » Pourquoi Dieu nous abandonnerait-il? S'il nous jugeait selon la rigueur de sa justice, aussitôt baptisé, aussitôt abandonné, qui, de ceux qui sont baptisés adultes, peuvent se maintenir une journée dans un état véritablement de véritable reconnaissance envers Dieu. Bon, deux journées si vous voulez, on ne va pas chipoter. L'enfant qui est baptisé, c'est la plus belle des choses que l'on puisse donner à un enfant que de le faire baptiser le plus tôt possible. Mais après, combien d'années vécues dans la folie, combien d'années vécues dans une sorte d'insouciance des choses de Dieu, jusqu'à ce qu'on peut appeler la conversion d'un baptisé. Nous devons soupirer, mes très chers frères, nous devons soupirer, lever les yeux vers le ciel et dire, mon Dieu, ayez pitié de moi, c'est vers vous que je crie. Et en même temps, publier les grandeurs de Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai crié vers vous et vous m'avez guéri. Vous voyez, notre vie est un mélange de soupirs, de larmes versées dans cette vallée de larmes et de cris d'allégresse pour ce que Dieu a fait et pour ce qu'il va faire encore. Alors, mes très chers frères, vous voulez savoir ce que Dieu peut faire et va faire pour nous? Eh bien, nous terminons simplement par la lecture de l'oraison d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant et Éternel, dont l'immense bonté va au-delà de nos mérites et même de nos désirs, répandez sur nous votre miséricorde, remettant ce que notre conscience a sujet de craindre et accordant ce que notre prière n'ose point espérer. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.